sans les quelles notes je n'aurais pas pu faire ce petit exposé. La vie donc du père Hermann Cohen, le père Augustin Marie du Très-Saint-Sacrement au Carmel, nous montre l'œuvre, nous allons le voir, de la grâce prévenante qui veut, qui assiège le cœur et qui l'assaille et qui finit par en triompher. Nous allons voir les merveilles de la grâce dans cette vie d'un homme extrêmement doué, musicien virtuose qui finit par se laisser vaincre par l'amour du Christ. C'est d'ailleurs ainsi qu'il percevait lui-même son existence jusqu'à sa conversion. Si l'on en croit donc les confessions qu'il a rédigées au Carmel, qui sont malheureusement aujourd'hui perdues, mais dont usa abondamment l'abbé Sylvain, son premier biographe, et la biographie qui fait encore date, même si nous attendons la prochaine biographie de notre frère Stéphane Marie, qui prépare, donc il est historien, et qui prépare une biographie depuis un certain temps, qui devrait faire date, l'espérons en tout cas. Première partie, donc une jeunesse désordonnée, 1820-1847. Hermann Cohen, qui est né à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, le 10 novembre 1820, il est né au sein d'une famille juive. Ses parents, David Abraham Cohen et Rosalie Benjamin, éduquent leurs quatre enfants, Albert le premier, Hermann et donc le second, Henriette et Louis, dans la foi juive. Mais cette éducation religieuse n'ancre pas en eux une foi profonde, mais laisse en Hermann un sentiment religieux, oui, qui va se réveiller d'ailleurs lors de sa conversion. Mais surtout très tôt, donc à l'âge de 4 ans et demi, il révèle des dispositions extraordinaires pour la musique. C'est un pianiste virtuose. Et il est confié à un professeur de musique qui malheureusement va constituer pour lui un assez mauvais exemple parce qu'il lui permet des extravagances et de donner libre cours à tous ses caprices. Bref, c'est un enfant avec de grands talents, mais des talents qui lui font tourner la tête à un âge où il faudrait quand même peut-être user d'une certaine modération, en tout cas lui offrir une éducation digne de ce nom. Et il accompagne son professeur quelques semaines à Francfort, où il donne un concert à Hambourg, qui rencontre beaucoup de succès. Alors après cela, sa mère projette de conduire ce jeune virtuose à Paris, où se rendaient alors beaucoup de pianistes étrangers pour étudier, pour travailler. Sur le chemin qui les conduit en France, en plusieurs villes d'Allemagne, Hermann donne d'ailleurs des concerts dont il tire de vives éloges. En 1833, il a donc 13 ans, il arrive à Paris et il devient l'élève du grand Franz Liszt, qui se plaît à l'appeler familièrement Puzzi. Pourquoi Puzzi? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le nom dont on l'affublait également en Hongrie, Liszt, dont on l'appelait également Puzzi. Donc c'est dire toute l'admiration que le maître a pour son élève, pour son disciple, celui qui va véritablement devenir son disciple, le père Hermann. Donc le fameux pianiste hongrois Liszt l'introduit dans les milieux mondains du faubourg Saint-Germain, proche du saint-simonisme et disciple de l'abbé Félicité de Lamennais. Liszt n'est pas encore véritablement converti, se convertira plus tard. Mais enfin, donc Hermann fait, grâce à Liszt ou à cause de Liszt, il fait connaissance avec les milieux libéraux et révolutionnaires de l'époque. Il le présente notamment à son ami George Sand. Et Hermann va lire les écrits. Vous savez que les écrits de George Sand ne sont pas d'une morale très convenable. Le père Hermann va vraiment être imbibé, voyez, de tout cet esprit, de tout ce climat mondain parisien. Hermann rencontre aussi Félicité de Lamennais, Lamennais qui, même s'il a écrit une imitation de Jésus-Christ, enfin une traduction magnifique de l'imitation de Jésus-Christ, n'en a pas moins été condamné par Grégoire XVI dans une encyclique de 1832. Hein? Donc, vous voyez tout ce milieu-là. Qui finalement enivre Hermann hein, et lui donne eh bien, finalement d'être le chanoine dit le tyran de la famille Cohen hein. En effet il entraîne il se comporte d'une manière très capricieuse auprès de sa mère et de ses frères. Évidemment, c'est un enfant prodige, alors évidemment il est très capricieux et surtout plein de vanité. En 1835, donc 15 ans, Liszt quitte Paris pour Genève avec sa maîtresse, Marie Dagout. Et le père, Hermann ne veut pas rester loin de son maître et il le rejoint 3 mois plus tard, accompagné de sa mère et de sa sœur cadette, qui l'entraîne aussi avec lui. Et là, il devient professeur au conservatoire. Il a alors 15 ans, c'est dire le génie de cet homme, hein, conservatoire donc qui vient de Genève, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Et là, parce qu'il est très bien payé, il commence à mener une vie complètement dissipée. Hein, il dépense énormément d'argent et puis il commence à lire Rousseau et Voltaire. C'est complètement dans l'esprit du temps. Et c'est à Genève qu'il commence à prendre goût au jeu. Ce sera son vice, l'un de ses vices principaux, le jeu. C'est un grand joueur, hein, et il dépensait évidemment beaucoup d'argent parce qu'il en perdait beaucoup. À la fin du mois d'août 1836, il participe à une excursion de plusieurs jours en Suisse avec Liszt, Marie Dagout et Georges Sand. D'ailleurs, Georges Sand qui nous a laissé un récit hein, dans ses lettres à un voyageur, un récit, hein, 10e lettre, un récit donc de cette excursion avec Liszt et sa maîtresse Marie Dagout, qui nous laisse une trace surtout de l'insouciance et de l'excentricité absolument totale hein, de ce milieu, de ces quatre qui véritablement mène une vie parallèle, hein, totalement mondaine et parallèle à la vie ordinaire. Hein. Quand Liszt retourne à Paris en 1836, eh bien, Hermann aussi, décidément, ils sont très liés, hein, il décide aussi d'y revenir. C'est vraiment le maître et le disciple, et le disciple qui ne peut pas vivre sans son maître, malgré toutes les instances de sa mère, parce qu'elle voit bien sa mère tout le mal que fait Liszt, même si Liszt est aussi un musicien prodigieux, enfin en tout cas il a une mauvaise influence sur son fils, qui a 16 ans, hein, et puis qui continue dans la capitale de la France, parisienne, de se livrer au jeu avec passion, et puis il commence à négliger même la musique. Il fréquente un milieu donc encore très mondain avec la princesse Belgiojoso, hein, des diplomates, de la noblesse, bref. Et puis il repart, après l'échec d'un concert parisien, il repart un temps à Hambourg avant de revenir à Paris, où là il va se lier d'amitié avec un chanteur italien dont il va l'accompagner, qu'il va accompagner au piano pendant assez longtemps. Mais il est brouillé depuis 1941 avec Liszt pour des questions d'argent, oui, parce qu'il empruntait beaucoup à Liszt et à mon avis il ne devait pas tellement lui rembourser, donc finalement ça produit la discorde et finalement il ne se voit plus. Alors il part à Londres, en Italie, et il continue à donner de brillants concerts, il est acclamé, et puis nous le retrouvons, deuxième partie, le converti de l'Eucharistie, 1847-1849. Depuis donc le mois d'octobre, nous le retrouvons donc à Paris, où il est revenu depuis octobre 1846. Là, il loge chez un ami, Adalbert de Beaumont, qu'il a rencontré lors d'un voyage à Venise. Et le Seigneur va le rattraper un vendredi de mai 1847. En effet, ce jour-là, il est sollicité pour remplacer le prince de la Moscova, hein, afin d'accompagner à l'orgue la bénédiction du Saint-Sacrement dans l'église Sainte-Valère, qui n'existe plus hein, aujourd'hui. C'est alors qu'il est touché par la grâce, saisis par la présence du Christ présent dans l'Eucharistie. Il éprouve, comme il l'a confié plus tard à son ami Alphonse Marie de Ratisbonne, qui est le fondateur de la congrégation Notre-Dame de Sion, lui-même un juif converti, célèbre. Il a confié donc à Alphonse Marie Ratisbonne qu'il a éprouvé alors une singulière émotion, comme des remords de prendre part à cette bénédiction dans laquelle il n'avait aucun droit d'être compris. Mais sa conversion n'est pas instantanée, car elle ne se fait pas en un instant. Il faut qu'il assiste encore, il assiste les vendredis suivants au salut du Saint-Sacrement et à la messe de dimanche. Et il finit par s'ouvrir de son état à la duchesse de Rosan, et qui lui fait rencontrer l'abbé Legrand de l'archevêché de Paris, qui l'accueille avec bienveillance et qui commence à l'instruire de la foi catholique. Il se rend ensuite à Ems en Allemagne pour donner un conseil. Et c'est là qu'a lieu véritablement sa conversion, on va dire totale. En effet, le dimanche 8 août, au cours de la messe, c'est ce qu'il écrit, hein, voilà ce qu'il écrit encore à Alphonse-Marie Ratisbonne, « La grâce divine se plaît à fondre sur moi de toute sa force. Au moment de l'élévation, tout à coup, je sens éclater à travers mes paupières un déluge de larmes qui ne cesse de couler avec une voluptueuse abondance le long de mes joues enflammées. Au moment à jamais mémorable pour le salut de mon âme, pendant que j'en étais inondé, je sentis surgir du plus profond de ma poitrine, lacérée par ma conscience, les remords les plus déchirants sur toute ma vie passée. Tout à coup et spontanément, comme par intuition, je me mis à offrir à Dieu une confession générale intérieure et rapide de toutes mes énormes fautes depuis mon enfance. Et cependant, je sentis aussi à un calme inconnu qui bientôt vint répandre comme son baume consolant sur toute mon âme, que le Dieu de miséricorde me les pardonnerait, qu'il détournerait le regard de mes crimes, qu'il aurait pitié de ma sincère contrition, de ma douleur amère. Oui, je sentis qu'il me faisait grâce et qu'il acceptait en expiation ma ferme résolution de l'aimer par-dessus tout et de me convertir à lui désormais. En sortant de cette église d'Ems, j'étais déjà chrétien. Oui, aussi chrétien qu'il est possible de l'être quand on n'a pas encore reçu le Saint-Baptême. Et le Saint-Baptême, eh bien, il arrive. Il arrive le samedi 28 août, oui, jour de la Saint-Augustin, où il prend précisément le prénom d'Augustin-Marie. Il est baptisé par le père Théodore Ratisbonne, lui-même juif converti, dans la chapelle Notre-Dame de Sion. Plus tard, Hermann comprendra que c'est Marie qui l'a conduit à l'Eucharistie, car c'est durant le mois de Marie qu'il s'est converti. Il écrit « Jésus et Marie m'ont attiré à eux. Marie m'a conduit à Jésus, Marie m'a donné Jésus. Elle m'a donné l'Eucharistie, et l'Eucharistie a ravi mon cœur, et l'Eucharistie a jeté sur moi et au-dedans de moi un charme si ravissant que je n'ai plus voulu vivre que pour Jésus et Marie, et je me suis donné à Jésus dans l'ordre de Marie, et je suis devenu religieux de Marie et prêtre de Jésus. » Commence alors pour le néophyte une période zélée, mais en même temps éprouvante. Il mène une vie de fervent chrétien, mais dans le contexte de ses anciennes habitudes mauvaises. Il continue de donner des leçons de piano, des concerts et de fréquenter les salons. Cependant, il s'engage peu à peu à régler ses nombreuses dettes de jeu. À partir du 22 octobre 47, il participe à la conférence Saint-Vincent de Paul. Il fait aussi connaissance de l'abbé de la Bouillerie, qui est le vicaire général de Paris et le futur évêque de Carcassonne, en 1855. Parmi les actions de son zèle apostolique naissant, il faut noter la fondation de l'adoration nocturne pour les hommes. Dans la modeste chambre qu'il occupait seul au 102 rue de l'Université, à l'intérieur d'une maison qui est actuellement détruite, il réunit les premiers membres de ce groupe. Hermann, en effet, a vécu un événement tout à fait providentiel. Un après-midi de novembre, il est à l'adoration dans la chapelle des Carmélites de la rue d'Enfer à Paris. Le soir vient et la sœur Tourière lui demande de se retirer. Voyant qu'un groupe de femmes reste dans la chapelle toute la nuit, le converti est étonné, comme jaloux. Quoi ? Les femmes veillent et les hommes se reposent. Or, l'adoration nocturne n'existe alors que pour les femmes et n'est pas mixte. Alors il en parle à l'abbé de la Bouillerie, son confesseur, qui lui propose de constituer un groupe d'hommes adorateurs nocturnes. 19 hommes, presque tous d'humbles conditions, se réunissent alors chez lui le 22 novembre 1848 sous la présidence du père de la Bouillerie, et le 6 décembre suivant a lieu la première nuit d'adoration dans l'église Notre-Dame des Victoires. Oui, frère Carme, Notre-Dame des Victoires. Pour ceux qui connaissent la petite Thérèse, ça évoque certaines choses, hein, puisque le père de la petite Thérèse avait, pour la guérison de sa fille, Thérèse avait demandé une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, à la suite de laquelle Thérèse va être guérie. Donc Notre-Dame des Victoires. Par la suite, ces adorations ont lieu dans la chapelle des Maristes, et là il fait connaissance, le père Hermann. Il a connu beaucoup de saints dans sa vie, notamment le curé d'Ars, mais là c'est le père Saint Pierre Julien, celui qui deviendra Saint Pierre Julien Aymar, qui est alors provincial de la congrégation des Maristes et qui va devenir l'inspirateur, le fondateur de l'adoration nocturne à Montmartre. Hein ? Il commence aussi à appliquer ses talents musicaux au service de sa foi, en mettant en musique des poésies mariales qui sont composées par une visitandine de la rue d'Enfer à Paris, sœur Marie-Pauline du Fougeret. Le but est d'aider financièrement une famille en difficulté. Par l'intermédiaire des maristes, les visitandines se tournent vers le musicien renommé. Le résultat est un recueil de 32 cantiques intitulé « Gloire à Marie » paru en mai 1849. Enfin, le Carme, 1849 jusqu'à sa mort, 1871. Hermann a un désir de se consacrer totalement au Seigneur. Alors il prend conseil auprès de plusieurs ecclésiastiques, notamment le père Lacordaire, et oui, non des moindres quand même, le père Lacordaire, l'abbé Desgenettes, le père de Ravignan et le père Berthelon Mariste. Il lit alors les œuvres de Sainte Thérèse de Jésus, une vie de Saint Jean de la Croix, et il décide de rejoindre l'ordre des Carmes des Chaux, qui a été restauré en France par le Haut Brousset, par le père Dominique de Saint-Joseph, à partir de 1839. En juillet-août 1849, il fait une retraite au couvent d'Agen, sous la direction du père Dominique, qu'il envoie à l'issue de la retraite au noviciat du Brousset. Hermann n'a plus alors de dettes de jeu, il est libre de ce côté-ci, mais comme juif converti, il a besoin d'une dispense du général de l'ordre. La réponse est négative. Si bien qu'il décide de se rendre lui-même à Rome pour obtenir cette dispense. Finalement, le définitoire général, qui s'est réuni à ce moment-là, la lui accorde. Donc dès la fin du mois de septembre, il retourne en France et il reçoit au Brousset l'habit religieux le 6 octobre 1849. C'est bientôt un anniversaire, voyez. Commence alors le noviciat de celui qui s'appelle désormais frère Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement. Il se livre avec ferveur et enthousiasme à ce temps de formation. Il rompt avec l'habitude de fumer, de priser, de prendre du café, mais finalement on l'autorise à continuer à priser. Oui, père Hermann continue à priser, ça se fait plus beaucoup maintenant, hein, mais... Oui, il y avait quand même des dispenses, vous voyez, on était quand même assez humains, hein, même à l'époque où c'était quand même assez dur au Carmel, il y avait quand même des dispenses possibles, vous voyez, on l'autorise quand même à continuer à priser. Et sa joie est grande d'embrasser cette nouvelle ville. Il est plein de ferveur. Hein. Sa mère le constate, hein, qui lui rend visite en juillet 1850. Et le 7 octobre 1850, il fait sa profession religieuse. Il rejoint peu de temps après le couvent d'Agen pour étudier la théologie et se préparer aux ordinations. Alors à l'époque, les études étaient quand même, on pouvait être dispensé de nombreuses années d'études, et finalement il est ordonné diacre une année plus tard et prêtre le samedi saint, le 19 avril de la même année, en 1851. Et enfin, le père Hermann s'est distingué surtout par un ministère de prédication. En bon fils du prophète Élie, il déployait en effet un vif zèle apostolique. À partir de 1853, il donne donc de nombreuses prédications en France et à l'étranger. Par exemple, à Genève, où il était allé avec Liszt, pour d'autres motifs. Il prêche avec succès sur la conversion, sa propre conversion. Il invite les hommes, justement, donc les fidèles, à se convertir. Mais surtout, son thème favori est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et il travaille, là où il passe, il travaille toujours à l'institution de l'adoration nocturne. C'est vraiment un promoteur de l'adoration eucharistique. Lors de ses courses apostoliques, il rencontre nombre de figures importantes du catholicisme français de l'époque, le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, monseigneur de Masneau à Marseille, le voyant de la Salette, Maximin. J'ai déjà parlé du père Aymar, qu'il retrouve dans le Var, et qu'il avait rencontré à Paris, qui fondera les prêtres du Très-Saint-Sacrement. Il a aussi eu l'entrevue avec Monsieur Dupont, le saint homme de Tours, qui avait lui aussi instauré l'adoration nocturne dans cette ville, à la suite de l'initiative d'Hermann. Et puis aussi le futur dominicain, le père Lataste, Alcide Lataste, bien, futur bienheureux, donc juste dans la ville mitoyenne du Brousset, et qui assiste d'ailleurs à sa prédication à Pau le 2 décembre 1853. Et puis, il est aussi fondateur et restaurateur de couvents, le père Hermann. Oui, le père Augustin-Marie est aussi un fondateur. En 1854, le père Dominique lui confie la construction du couvent de Bagnères de Bigorre, qui sera achevé en 1856. Le 18 décembre 1856, le terrain de Tarastex, près de Lourdes, est acheté par les Carmes pour y établir un Saint-Désert. Oui, le premier Saint-Désert de France. Et le père Augustin s'y rend jusqu'en 1859, tout en assurant des prédications en France et à l'étranger. Il aura ainsi participé à cette fondation qui lui tient beaucoup à cœur et dans laquelle il reviendra, mais trop peu à son goût, effectivement, comme ermite. En 1859, il restaure le couvent de Lyon, dont il devient prieur en 1860. Dans cette ville, il suscite plusieurs conversions et il acquiert une telle renommée qu'il demandera à changer de couvent. En juin 1862, il se trouve à Rome. Il y revoit son ancien maître, Liszt, qui est maintenant converti, lui aussi. Il y rencontre aussi le cardinal Wiseman, qui trouve en lui le religieux qu'il faut pour fonder un couvent de Carmes à Londres. Et c'est ainsi que le 5 août 1862, il quitte Paris pour l'Angleterre. Et il restaure l'ordre à Londres, dans une petite maison, le 15 octobre de la même année. Puis, la communauté se déplacera l'année suivante à Kensington, où elle est encore. Au début de l'année 1859, il vient présenter au pape Pie IX son projet de fonder une confrérie qui vise à favoriser l'esprit de gratitude conforme à la signification de l'Eucharistie. Il avait déjà interrogé à ce sujet le saint curé d'Ars, qu'il avait vivement encouragé dans cette entreprise. Le 15 décembre 1859, le cardinal de Bonald érige donc la première confrérie de l'action de grâce au couvent des Carmes de Lyon. Cette inspiration dit bien dans quel état d'esprit le père Hermann se livre à l'adoration eucharistique. Il veut remercier sans cesse le Seigneur pour ses bienfaits. Et il va fonder cette confrérie dans 4 autres villes de France, Orléans, Arras, Rodez et Lille. Fréquemment, le père Augustin-Marie aspire pourtant à une vie solitaire. et il aspire à la vie solitaire du Saint-Désert, le Starastex qu'il a fondé. Et d'ailleurs, un jour, on lui demande où est sa résidence, il répond qu'elle est dans les wagons, hein, plus que dans le Saint-Désert, alors qu'il voudrait ce soit le contraire. Mais il a un goût pour la prière, pour la solitude, hein, et il se retire donc en 1868 au Saint-Désert de Tarastex. Et c'est là qu'il compose un nouveau recueil de cantiques intitulé « Le Tabor ». Mais en 1870, donc 2 ans plus tard, le définitoire provincial le nomme premier définiteur, maître des novices, et il revient donc au Brousset, hein, il quitte le désert pour revenir au Brousset. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, et le 4 septembre suivant, après le désastre de Sedan, l'Empire s'effondre. Du fait de ses origines allemandes, le père Hartmann préfère quitter la France. Le 7 octobre, il arrive à Montreux, dans le canton de Vaud, en Suisse, où il devient le chapelain d'une colonie de réfugiés français. Début décembre, il se rend à Spandau, dans la banlieue de Berlin, où il devient, grâce à ses relations avec la reine de Prusse, l'aumônier des militaires français prisonniers. Il se consacre aux soins spirituels et matériels de 6000 prisonniers. Et c'est là qu'en soignant un malade, il contracte la petite vérole et meurt le 20 janvier 1871. Ses dernières paroles furent les suivantes « Et maintenant, ô mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains ».